Le mandat de Marie-Claude de Bibeau commence sur les chapeaux de roue, pourrait-on dire. Dans le monde agroalimentaire, comme on a des requêtes et des préoccupations urgentes à soumettre au gouvernement fédéral, on se réjouit que la ministre soit déjà bien au fait des dossiers et n'ait pas à faire avec les équipes de fonctionnaires l'ABC de chacun d'eux. J'ai fait un tour d'horizon avec Mme Bibeau sur différentes questions, y compris, bien sûr, sur les travailleurs étrangers temporaires et les problèmes informatiques qui bloquent leurs dossiers. Aussi, nous avons parlé du partenariat canadien pour l'agriculture, pour le renouvellement duquel les négociations vont s'accélérer.
Mme Marie-Claude Bibeau, bonjour.
Bonjour.
Madame Bibeau, vous êtes déjà replongée dans vos dossiers, je présume. Vous revenez à agriculture et agroalimentaire, donc vous êtes en terrain connu.
Oui, absolument, et ça me fait vraiment plaisir. C'est un secteur qui me tient à cœur, et puis je suis entourée d'une équipe extraordinaire aussi.
Vous connaissez les dossiers, ce qui est un avantage, effectivement, mais vous connaissez aussi les problèmes, et les problèmes ne manquent pas. J'en prendrai un qui est très, très d'actualité. Les producteurs agricoles, les maraîchers particulièrement, l'UPA également, les représentants de l'organisme Ferme, ont dénoncé ce qu'ils appellent des lenteurs dans le système, des lenteurs importantes qui seraient probablement dues à des problèmes informatiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, là, sur cette difficulté, encore une fois, de faire venir des travailleurs étrangers temporaires?
Oui, effectivement, dans l'installation d'un nouveau système informatique, on fait face à des défis techniques. On est très conscient de l'importance de pouvoir amener nos travailleurs étrangers dans les meilleurs délais possibles. Alors, on redouble d'efforts dans tous les sens du mot. Je travaille en proche collaboration avec la ministre Carla Qualtrough, qui est responsable de l'emploi, avec nos collègues du ministère de l'Immigration aussi. Pour faire en sorte là, qu'on rattrape le retard très, très rapidement. On a doublé les ressources qui travaillent à l'émission des études d'impact sur le marché du travail, parce que c'est de ça dont on parle à ce moment-ci. Et on s'assure en même temps que les collègues du ministère de l'Immigration qui vont être sollicités pour la prochaine étape, soit l'émission des permis de travail, puissent le faire plus rapidement pour justement contribuer à rattraper le retard qui a été pris à l'étape précédente.
Certains diront que c'est récurrent, là. Quand c'est pas des systèmes informatiques, c'est les vérifications de santé, c'est les vérifications pour la COVID, c'est toutes sortes de choses. Le système est un peu lourd. Est-ce qu'il est possible d'envisager d'aborder tout ça autrement?
Absolument. Et puis, d'ailleurs, on avait entrepris une réforme en profondeur de nos programmes pour les travailleurs étrangers temporaires. Et le fait que la ministre Qualtrough et moi-même, on demeure en poste, ça va nous permettre de reprendre là où on était rendu de façon très rapide et de pouvoir là, procéder à cette réforme en profondeur de nos programmes pour les travailleurs étrangers temporaires.
On peut dire que ce dossier-là, ben, c'est une priorité, effectivement, mais il y en a d'autres. Et de façon plus globale, pourrait-on dire, à quel dossier voulez-vous donner l'essentiel de vos énergies? Et je peux dire à quel dossier au pluriel, là?
Oui, effectivement, je vous avoue que la liste est quand même longue. Ce matin, par exemple, je suis en préparation avec l'équipe du ministère pour la rencontre qui va avoir lieu avec tous les ministres des provinces et des territoires, ministres de l'Agriculture. On va se rencontrer à Guelph les 9 et 10 novembre pour mettre la table en vue du renouvellement de l'entente, le partenariat canadien pour l'agriculture 2023-2028. Alors, c'est important. Pour le Québec, la dernière fois, le cycle de 5 ans qui est en cours en ce moment, ça représentait près de 300 millions de dollars juste pour le Québec. Alors là, on va s'entendre sur les priorités de ce prochain cadre stratégique-là. Et pour ma part, du point de vue fédéral, c'est sûr que le volet agro-environnement va être très, très important. Notre rôle dans la lutte contre les changements climatiques est important, d'autant plus que les producteurs et les productrices sont les premiers à subir les impacts des changements climatiques. Donc, autant comme subissant les impacts que comme un joueur clé pour pouvoir réduire nos émissions, pouvoir lutter contre les changements climatiques, on a un rôle important à jouer. Donc ça, c'est sûr que c'est un élément parmi d'autres sur lequel je vais mettre beaucoup d'emphase.
Très certainement, vous êtes au courant que les provinces, le Québec en particulier, vont demander davantage d'argent parce qu'on dit que au cours du dernier exercice, du dernier 5 ans du cadre stratégique ou du partenariat, les sommes avaient été réaménagées, réorganisées et tout ça, mais là, on estime que c'est pas suffisant, qu'il faut augmenter les budgets. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour vous?
C'est envisageable. Ça va faire l'objet d'une discussion parce que ces programmes-là sont financés à 60 % par le gouvernement fédéral et à 40 % par les provinces. Et ça implique que toutes les provinces contribuent leur part. Donc, il faut chercher un consensus. C'est toujours un défi. Les priorités varient. Mais il y a quand même un volet important du partenariat canadien qui se divise, je dirais, de façon qui permet aux provinces d'administrer des programmes selon leurs priorités. J'aime toujours donner en exemple le programme Prime Vert au Québec, qui est très populaire. Qui est un programme qui est administré par le gouvernement du Québec, mais financé à 60% par le gouvernement fédéral.
Je reviens sur la question de l'écologie, l'environnement, le virage écologique qui est souhaitable que l'on continue dans le monde agricole et agroalimentaire. De ce point de vue-là, les producteurs disent qu'ils constatent de nouveau que, en particulier dans ce dossier-là, mais de façon générale, dans des régions comme les États-Unis, comme l'Europe, les gouvernements soutiennent davantage des initiatives environnementales, entre autres, et on souhaiterait qu'au moins il y ait un semblant de parité là, entre le Canada et ces pays-là.
J'entends ce message, je le comprends, mais en même temps, quand vient le temps de prioriser, la façon dont on travaille comme gouvernement est assez différente. Et il faut regarder là, les différents secteurs de notre économie aussi. Donc, c'est toujours un dilemme. Par exemple, au Canada, on privilégie les programmes de gestion de risque. On veut mettre en place des programmes qui permettent à nos producteurs et productrices de savoir que s'il arrive une catastrophe quelconque, ils vont être supportés par leur gouvernement. Aux États-Unis, ils vont privilégier les programmes ad hoc de dernière minute. Donc, on a une culture, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais qui est différente aussi. Une capacité financière qui est différente, mais quand même, on reconnaît l'importance du secteur agricole. Dans les dernières années, depuis que je suis là et que j'en ai été témoin, on a augmenté de façon significative nos contributions au secteur agricole, que ce soit par l'augmentation au programme justement de gestion de risque agri-stabilité. Récemment, on l'a fait pour le programme Agri-Relance, particulièrement pour l'Ouest canadien qui subissait une sécheresse absolument terrible cette année. On l'aurait fait si ça avait été au Québec, bien évidemment. On a aussi, versé toutes les compensations pour les 2 premiers accords de libre-échange. On continue à réinvestir dans la recherche et l'innovation. Donc, si vous regardez le budget du ministère de l'Agriculture dans les 2-3 dernières années, vous notez une augmentation substantielle.
Pour ce qui est de la gestion de risque, et ça remonte à plusieurs années aussi, il y a toujours eu, et les producteurs sont rapides à noter qu'il y a des trous de couverture, des trous dans les mécanismes de déclenchement des paiements que peuvent donner des programmes de gestion de risque. Est-ce que vous cherchez toujours à boucher les trous, comme on dit, là, éviter qu'il y ait justement des failles dans lesquelles des productions peuvent tomber là en cas de catastrophe ou de difficultés sur les marchés, etc.?
Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs, on a fait des progrès très importants dans la dernière année avec le programme Agri-Stabilité en enlevant ce qu'on appelle la limite sur la marge de référence. Bon, c'est un peu technique, mais résultat, c'est que ça fait en sorte que le programme est devenu plus équitable pour les différents secteurs de l'industrie, plus prévisible aussi, plus compréhensible. Donc, ça redonne confiance aux producteurs. Donc, ça, on a obtenu consensus de toutes les provinces pour aller de l'avant. Ça représente 95 millions de dollars de plus par année dans les poches des producteurs qui en ont le plus besoin, ceux qui font face à des catastrophes ou à vraiment à des pertes substantielles. Il y a aussi une offre qui est toujours sur la table d'augmenter le taux de compensation de 70 à 80. Malheureusement, on n'a pas un consensus suffisant des provinces à ce moment-ci. Les prairies n'ont pas voulu se joindre. Le Québec est partant. Donc ça, malheureusement, là, on n'y est pas encore pour cette proposition fédérale. Mais dans le cadre de nos discussions, entre autres dans une dizaine de jours, comme je vous disais, à la rencontre des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux, c'est toujours un des sujets parmi les plus importants, là, les programmes de gestion de risque. Comment on fait pour les améliorer, pour les rendre plus compréhensibles, donc pour que les producteurs aient plus confiance, qu'ils réagissent plus rapidement aussi. C'est vraiment un volet important.
Les compensations aux producteurs dans les systèmes de gestion de l'offre, ça va se poursuivre. Ce qui est déjà annoncé, les paiements vont continuer de se faire, je présume. Pour ce qui est du renouvellement de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qu'on appelle maintenant la CEUM, les compensations pourraient venir à quel moment? Est-ce qu'il faut une période de négociation d'abord avant dans tout ça?
On est déjà très avancé. Et notre engagement, c'est de confirmer les compensations pour la CEUM dans la prochaine année, dans notre première année de ce nouveau mandat. La discussion avec les représentants des secteurs concernés est déjà très, très avancée. Alors, moi, je suis confiante là, qu'on va aller de l'avant. Et en termes de paiement, ben, pour ce qui est des producteurs de lait, ils ont déjà reçu leurs deux premiers versements. Ils savent déjà combien ils vont recevoir pour troisième, quatrième paiement. Donc, on peut imaginer que ce serait à la suite que les autres paiements se poursuivraient. Pour ce qui est des producteurs de volailles et d'œufs, ça prend la forme de programmes d'investissement. Donc, ça pourrait éventuellement être plus sous forme de bonification de ces programmes-là, mais on verra avec les discussions. Et pour ce qui est des transformateurs, là, on connaît l'enveloppe et je vais reprendre le travail là, pour ce qui est de la définition des programmes comme tels. Bon, il reste pas beaucoup de travail encore à faire là. Je crois qu'on va pouvoir annoncer là, quelle forme ces programmes-là vont pouvoir prendre quand même dans un avenir proche.
Je reviens sur la question du réchauffement climatique, des problèmes, par exemple, comme on a vu au cours de la dernière saison de culture, là, des problèmes de sécheresse assez critiques dans l'Ouest canadien. Il y a diverses mesures qui doivent être prises et il y a aussi la question de changement des pratiques agricoles dans les régions qui ne sont pas nécessairement touchées par des catastrophes climatiques pour l'instant. Mais pour protéger l'environnement, il faut changer les pratiques. Là, je me permets de vous demander, est-ce que vous envisagez ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui est amorcé ou pensé, une certaine collaboration avec le nouveau ministre de l'Environnement, M. Guilbeault?
Oui, ça va être une collaboration naturelle, je vous dirais, qui va se poursuivre. Déjà, j'ai travaillé de près avec le ministre Wilkinson et le ministre Guilbeault étant aussi un ministre du Québec, on a l'occasion de se rencontrer encore plus souvent dans le cadre de nos différents caucus et on a plusieurs projets là, en collaboration, entre autres sur les standards pour... je déteste quand le mot me vient en anglais avant. Sur le Clean Fuel Standard, donc les standards pour les carburants, voilà, c'est un des dossiers qu'on travaille ensemble. Mais outre les dossiers en directe collaboration avec le ministère de l'Environnement, je vous rappelle qu'on a un programme pour les solutions agricoles pour le climat qui est en train de se déployer pour pouvoir offrir des incitatifs financiers aux producteurs, productrices qui vont adopter des bonnes pratiques plus rapidement, comme les cultures de couverture, la rotation des pâturages, meilleure gestion des fertilisants, par exemple. On a aussi le projet des technologies propres qui est en cours et qui a été tellement populaire que l'un de nos engagements de la dernière campagne électorale, c'est de tripler le budget, donc de le faire passer de 165 millions à près de 1,5 milliard de dollars pour subventionner, en quelque sorte, l'achat d'équipements agricoles plus éco-énergétiques, que ce soit pour le séchage du grain, le chauffage du poulailler, l'agriculture de précision, par exemple, et aussi pour investir dans une certaine mesure dans la recherche, l'innovation, la commercialisation de ces nouvelles technologies-là.
En terminant, Mme Bibeault, je reviendrai un peu sur les questions de départ lorsqu'il a été question de travailleurs étrangers temporaires, mais parlons plus globalement d'immigration aussi. Et un exemple très précis, Holimel au Québec vient d'annoncer qu'elle va réduire ses achats de porc auprès des producteurs, donc réduire ses abattages parce qu'elle manque de main-d'œuvre. Il manque 1500 travailleurs dans ses usines et elle n'y arrive pas. Elle n'est pas capable d'opérer avec les volumes actuels de porc qui lui sont livrés. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
L'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre, à mon avis, c'est le principal enjeu en ce moment, outre les changements climatiques, là, mais dans le très court terme. C'est ce dont j'entends le plus parler partout où je vais, dans tous les secteurs, particulièrement dans nos régions au Québec. Alors, vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, on a signé une entente avec le gouvernement du Québec pour pouvoir augmenter le plafond de 10 à 20 pour la présence de travailleurs étrangers au sein des usines. Donc, la balle est en ce moment du côté de Québec pour nous faire la demande officielle après consultation, entre autres avec les syndicats, avec les employeurs aussi. Donc, on est ouvert à augmenter le plafond des travailleurs étrangers, mais il va falloir avoir une stratégie relative à la main-d'œuvre qui va être plus large que ça. Donc, oui, les travailleurs étrangers, c'est une partie de la solution, mais comment on peut faire pour aller chercher, intéresser plus de Québécois aux emplois dans le secteur agricole, dans les abattoirs, entre autres, mais c'est bien large, hein? Il y a beaucoup d'opportunités de carrière en agriculture avec différentes compétences. Donc, ensuite de ça, comment on peut peut-être inciter aussi les aînés à demeurer au travail? On veut augmenter les incitatifs fiscaux à ce niveau-là. Ben, le fait qu'on trouve plus de places en garderie, ben, ça donne plus de parents disponibles pour revenir sur le marché de l'emploi plus rapidement. Donc, il va falloir avoir une stratégie main-d'œuvre beaucoup plus large et toujours, évidemment, en partenariat avec le gouvernement du Québec.
Et toujours avec, en fond de scène, cette négociation à partir du souhait du gouvernement du Québec de rapatrier davantage de juridictions, là.
Ben, ça, c'est effectivement, c'est leur souhait. Notre souhait aussi, c'est qu'ils acceptent nos propositions. Par exemple, on a des projets pilotes dans l'Atlantique, on a des projets pilotes en Ontario pour encourager ou faciliter, accélérer le passage entre le permis de travail temporaire vers la résidence permanente. Donc, c'est une opportunité que le Québec pourrait saisir aussi. Alors, moi, j'ai confiance. On a une bonne collaboration entre les ministres de l'Immigration. Donc, je suis convaincue que M. Fraser, qui vient d'arriver pour nous, avec son homologue québécoise, qui vont pouvoir progresser là de façon à ce que tout le monde trouve son bonheur dans nos ententes fédérales provinciales.
Bien, Madame Marie-Claude Bibeau, merci beaucoup et puis bon mandat.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Ici Lionel Levac. Pour être tout à fait cohérent avec ses visées climatiques et environnementales, il faudra effectivement que le gouvernement fédéral continue et même amplifie son soutien au monde agricole. Le président de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groslot, rappelait dans une entrevue que je faisais avec lui récemment qu'il serait même bon qu'Ottawa crée un programme qui pourrait s'appeler AgriVert. Au revoir.